Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs auditrices, voici le journal aujourd'hui. En titre, 72 anniversaire, RRI augmentera son soutien à l'Indonésie. Pour améliorer l'image positive de la nation, RRI renforcera la voix de l'Indonésie. Le président signe le décret présidentiel sur le renforcement des caractères à l'éducation. Voici le bulletin complet.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
L'agence de radiodiffusée publique de la Radio République de l'Indonésie, ou RRI, aura 72 ans le 11 septembre 2017. Le directeur de RRI, Mohamad Rohanuddin, a déclaré à l'âge de 72 ans, RRI a le but de construire le public ou des auditeurs plus importants. Selon lui, avec un grand nombre d'auditeurs, les messages qui sont délivrés par RRI seront plus transmis au public. Rohanuddin a récemment expliqué en tant que radiodiffuseur public, RRI est une institution de la radiodiffusion neutre et indépendante qui doit prendre parti pour l'État. Il a souligné que la partialité à l'État n'est pas la partialité au régime, mais plutôt une partialité au peuple et aux institutions de l'État dans le but d'améliorer l'image positive de la nation. Dans le but d'améliorer la partialité à l'État unitaire de la République d'Indonésie, le 11 septembre 2017, RRI lancera 100 stations à la frontière. Cette année, RRI a construit 5 stations camp moyenne, situées à la frontière. L'une d'entre elles est la station de Rote. Le président nous a également demandé de construire RRI à Miangas, à Bima, à Sumba, Balitung et ainsi de suite, qui sera prochainement inaugurée. C'est une représentation de la partialité de Radio République Indonésie à l'État. Mohamad Rohanuddin explique que RRI a représenté l'Indonésie par la présence de stations aux quatre points de l'Indonésie externe, à savoir à Sabang, Merauke, Miangas et Rote. Ces quatre points sont à l'entrée des zones frontalières et des zones importantes et en politique. Rohanuddin a déclaré pour atteindre l'objectif de construire un public plus large. RRI a mené diverses stratégies de conférences des médias comme l'utilisation des applications de RRI Play et RRI Net. À l'anniversaire de RRI, Rohanuddin espère que RRI avancera et suivra la tendance croissante de la technologie de la programme dans le monde. L'agence de radiodiffuseur public, la Radio République de l'Indonésie, ou RRI, aura 72 ans le 11 septembre 2017. Le directeur de la Radio République d'Indonésie, Mohamad Rohanuddin, a déclaré à l'âge de 62 ans, RRI améliorait toujours la partialité à l'État unitaire de la Radio République d'Indonésie et améliore l'image positive de la nation. Rohanuddin à la Voix de l'Indonésie a récemment déclaré « La Voix de l'Indonésie de la RRI a un rôle à construire une image positive de la nation dans le pays étranger. À cette fin, RRI renforce toujours la Voix de l'Indonésie en ouvrant de nouvelles émissions de langue et par le renforcement d'une technologie plus moderne.
Voice of Indonesia, itu adalah
bagian. La voix de l'Indonésie est une partie importante de RRI. Parce que la voix d'Indonésie est un outil pour construire la diplomatie de l'État à l'étranger. Par la conséquence, la diffusion de la voix de l'Indonésie doit être plus forte. Nous avons ajouté un langue néerlandaise. Rohanuddin l'a expliqué, l'État fier parce que la voix d'Indonésie a beaucoup d'auditeurs. Pour cela, il a le projet de construire un émetteur plus moderne. À l'avenir, les auditeurs de la voix d'Indonésie dans le monde entier peuvent écouter des émissions via le système radionumérique mondial. Avec la nouvelle technologie, les auditeurs écouteront la diffusion de manière plus claire et plus forte. Le président Joko Widodo a signé mercredi à Jakarta le décret présidentiel numéro 87 de 2017 sur le renforcement de l'éducation du caractère. La signature a été témoignée par plusieurs oulémas, des leaders communautaires et des intellectuels musulmans. Le président a déclaré que le décret était préparé en fonction des contributions de diverses parties de toute l'Indonésie. Selon lui, le décret présidentiel est un décret global qui fournit un parapluie juridique à toutes les parties pour l'appliquer. Le président a déclaré que le gouvernement formulerait des lignes directrices pour un suivi plus haut niveau communautaire.
Jadi baru saja saya tanda tangani mengenai perpres penguatan.
Je viens de signer le décret présidentiel sur le renforcement de l'éducation du caractère accompagné des ulémas et des leaders communautaires. J'ai été très heureux que toutes les parties aient appuyé ce décret. Il a été préparé en fonction des contributions de tous avant qu'il devienne un décret global. Il sera suivi par des lignes directrices afin qu'il puisse être mis en place immédiatement. Il fournit également un parapluie juridique aux ministres, aux gouverneurs, aux régents et aux maires pour préparer le budget de renforcement de l'éducation du caractère à la fois aux écoles coraniques, aux écoles et aux communautés. C'était la force du décret. Pendant ce temps, le président de Nahdlatul Ulama, Agil Siraj, a déclaré à la même occasion que Nahdlatul Ulama, l'une des organisations les plus âgées en Indonésie, a appuyé et apprécié ce décret présidentiel en tant que mesure visant à maintenir Pancasila comme l'idéologie de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Lors d'une conférence de presse, Saïd Agil a déclaré que la délivrance du décret présidentiel visait à créer des jeunes avec un caractère noble et de respect dans le cadre de la diversité. L'Indonésie, à travers la Fondation de l'éducation des arts Jaya Suprana School of Performing Arts, fait des échanges de pianistes avec différents pays dans le monde. L'essence du pianiste est l'une des formes des efforts diplomatiques de l'Indonésie par l'art et la culture. Cela a été transmis par le président de la Fondation de l'éducation et des arts, Jaya Suprana School of Performing Arts. Jaya Suprana à la voix de l'Indonésie jeudi le 7 septembre à Jakarta. Le gouvernement a augmenté l'allocation de fonds pour l'atténuation et l'adaptation du changement climatique dans le budget de l'État de 72 285 trillions en 2016 à 77 650 trillions en 2017. Le chef du centre de politique sur le financement du changement du climat et multilatéral de l'agence politique financière du ministère des Finances, Pardjono Adepo, a déclaré mercredi le budget pour les activités d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques est alloué à 6 ministères et organismes. Cela a été dit par Pardjono dans la discussion cartographier le financement du changement climatique en Indonésie au campus de l'Université de l'Indonésie, l'époque mercredi. En outre, il y a un transfert de fonds vers les régions par le biais du fonds d'allocation spéciale et du fonds du partage des bénéfices. Le ministère des Finances a également préparé un certain nombre de politiques incitatives et des incitations fiscales liées au chantier, les incitations fiscales sous forme d'installations fiscales, de garanties gouvernementales et de tarifs de rachat sont préparés pour la désertification et le développement d'énergies nouvelles et renouvelables. L'ambassade d'Inde, Indian Mission to ASEAN, et le chanteur culturel de l'Inde à Jakarta par PT Indonesia Wiz a lancé le programme Best of India KNITE Knowledge IT Engineering 2017 pour mener un encadrement collaboratif qui a eu lieu du 6 au 7 septembre 2017 à l'Université d'Indonésie et Polytechnique Negeri Jakarta. L'événement qui se concentre sur le renforcement des capacités dans les établissements d'enseignement est organisé par le Programme pour le développement et l'éducation Inde-Indonésie, ou PRIDE, et initié par Amaltitus, le conseiller stratégique, le professeur et l'écrivain indien. Il a dit la voix d'Indonésie en marque du séminaire Best of India Knight 2017, Amaltitus a exprimé son engagement à soutenir et inspirer le développement des talents des jeunes par le programme et projets pertinents et récents, ainsi qu'un pont entre les jeunes universitaires et l'Indonésie. À travers le programme de mentorat collaboratif, Amaltitus espère que les étudiants indonésiens peuvent apprendre beaucoup sur le développement de l'industrie d'aujourd'hui. Ensuite, ils peuvent développer leurs propres idées et surtout, Amaltitus espère qu'il peut donner les opportunités et les soutiens aux universités indonésiennes pour qu'ils mènent leurs idées, leurs intérêts et leurs talents dans l'industrie. C'est solitaire d'Itis, c'était notre journal aujourd'hui. Mes amis, voici la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Republica le vendredi 8 septembre ayant pour titre « Bienvenue l'Irak ». La mise en œuvre du pic du Hatch 2017 s'est terminée et s'est déroulée en toute sécurité et sans problème. Depuis mercredi 6 septembre, les pèlerins du Hatch du premier cloter sont revenus dans leurs régions respectives. Bien que le pic du Hajj ait pris fin, la tâche du comité d'organisation de Hajj Indonesia PPIH en Arabie Saoudite pour servir les pèlerins n'est pas encore terminée. Le service aux pèlerins de Hajj à la Mecque ou le Médina ne devrait pas diminuer. Ils doivent encore obtenir d'excellents services de santé, de transport, de logement et de restauration. Ce qui va rentrer dans le pays doit également avoir un bon service. Ensuite, l'éditorial du journal Sindo a écrit « Action de préoccupation pour les musulmans rohingyas ». Mercredi 6 septembre après-midi, des milliers de participants de l'action solidarité pour les musulmans rohingyas ont fréquenté Bundaran HI ou rond-point de l'hôtel indonésien, jusqu'à l'ambassade de Myanmar sur Jalan Agus Salim, centrale de Jakarta. Des milliers de manifestants venus de différents coins de la capitale ont crié assez fort. Comme expulser le Myanmar d'Indonésie à la fin de la coopération entre l'Indonésie et le Myanmar. La tragédie humanitaire qui a frappé les Rohingyas dans l'état de Rakhine est devenue la deuxième question la plus chaude après l'indépendance de la Palestine, qui a reçu l'attention de divers groupes d'organisations de masse en Indonésie. En effet, il y a presque une semaine, l'expulsion des Rohingyas de la région de Rakhine continue jusqu'à ce jour. Des dizaines de milliers de Rohingyas ont fui vers différents pays de la région de l'ASEAN, en particulier les pays voisins les plus proches, Azafra, le Bangladesh et la Thaïlande. Selon Sindo, la position du gouvernement indonésien de faire la diplomatie en amont vers l'avant au Bangladesh devrait être soutenue par la communauté, car toutes les formes d'assistance ne peuvent être canalisées que par une bonne coopération entre les pays. Il devrait être apprécié par la décision de la ministre des Affaires étrangères Ratno L.P. Marsudi d'offrir une solution du conflit d'appeler Formule 4 plus 1 au conseiller de Myanmar Aung San Suu Kyi et le commandant des forces armées du Myanmar, le général U Min Aung Hlaing, mardi. La réunion entre le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et les deux fonctionnaires birmans a également fait l'Indonésie un pont au pays de l'ASEAN pour résoudre des conflits. Maintenant, presque tous les éléments de la société indonésienne donnent l'aide pour alléger le fardeau des réfugiés Rohingyas. Les manifestations en masse de les actions publiques de collecte de fonds deviennent la force de la diplomatie indonésienne pour encourager un bon processus démocratique au Myanmar, en particulier à Rakhine. Espérons que ces diverses formes d'actes de préoccupation peuvent changer Aung San Suu Kyi, qui a reçu le prix Nobel de la paix, immédiatement mis fin à son silence vers la bataille ethnique dans sa région. Ces auditeurs d'ITIS, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 9 septembre. Le 9 septembre, qui est célébré la Journée nationale du sport, ne peut pas être séparé de l'organisation de la première Semaine nationale du sport tenue à Surakarta, à Java Central, du 9 au 12 septembre 1948. Le 9 septembre, la date d'ouverture de la Semaine nationale du sport, soit PON, à l'époque était établie comme Journée nationale du sport. L'ouverture du premier PON a été inaugurée par le premier président de la République d'Indonésie, Sukarno, et la cérémonie de clôture a été menée par Sri Sultan Hamengkubuwono IX en tant que président du Comité olympique de la République d'Indonésie. La première Semaine nationale du sport a été suivie par environ 600 athlètes en compétition sur 9 sports, à savoir l'athlétisme, le lancer de disque, le badminton, le football, le tennis, la natation, les arts martiaux, le tir à l'arc et le basketball. Les participants proviennent du niveau de la résidence ou du niveau de la ville. Il y a 13 résidences ou villes participant à la première Semaine nationale du sport, entre autres Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Semarang, Jakarta et Surabaya. Surakarta est devenu le champion avec 36 médailles sur un total de 108 médailles d'or, d'argent et de bronze qui sont contestées. Ensuite, le 9 septembre 1948, la partie nord de la Corée est devenue la Corée du Nord avec le nom officiel de la République populaire démocratique de Corée. Initialement, la péninsule coréenne a été régie par l'Empire coréen jusqu'à ce qu'il soit annexé par les Japonais après la guerre russo-japonaise de 1905. Après la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été divisée en territoires occupés par l'Union soviétique et les États-Unis. Les troupes américaines ont occupé la partie sud de la péninsule coréenne, alors que les troupes soviétiques occupaient la partie nord. En novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant des élections en Corée sous les auspices d'une commission des Nations unies. Cependant, l'Union soviétique a refusé de se conformer à la résolution et a refusé l'entrée de la commission des Nations unies dans la moitié nord de la Corée. L'Assemblée générale des Nations unies a ensuite adopté une autre résolution demandant des élections dans des zones accessibles à la Commission des Nations unies. La première élection générale a eu lieu le 10 mai 1948 dans les régions situées au sud de la latitude 38. Cette latitude finit par diviser la péninsule coréenne en Corée du Sud et en Corée du Nord. Officiellement, la partie sud de la Corée est devenue un pays appelé la Corée du Sud le 15 août 1948 et la partie nord de la Corée est devenue la Corée du Nord le 9 septembre 1948. Le dernier, le 9 septembre 2004, à 10h30, heure de l'ouest de l'Indonésie, une voiture piégée a explosé devant l'ambassade d'Australie à Kuningan, Jakarta, en Indonésie, tuant 10 personnes. Selon le côté indonésien, le nombre de victimes identifiées est 9 personnes, mais le côté australien a mentionné 11 victimes. Parmi les morts, il y avait l'unité de sécurité de l'ambassade, les demandeurs de visa, le personnel de l'ambassadeur et les résidents autour de la scène lorsque la bombe a explosé. Aucun Australien n'est décédé dans cet incident. Certains bâtiments autour de la scène ont également été endommagés. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Joko Widodo et Lee Hsien Loong commémorent 50 ans des relations indo-singapouriennes. Le président Joko Widodo a commencé sa visite à Singapour le 6 septembre dans le cadre de la 50e commémoration de la coopération indo-singapourienne. L'entretien entre le président Joko Widodo et le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong était commencé le 7 septembre en plantant l'arbre Sunda Oak et en faisant la promenade matinale au jardin botanique de Singapour, suivi avec le petit déjeuner ensemble. Dans un communiqué de presse commun, le premier ministre Lee a expliqué le thème de leur rencontre, Trusted Partners Rising Together. Rising est une abréviation de la République d'Indonésie et de Singapour. Le premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré que les liens des deux pays étaient fondés sur la même croyance et vision stratégique. Cependant, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie et Singapour ont surmonté les défis et le défi des 50 prochaines années est sûrement différent. Avant la réunion bilatérale, Joko Widodo et Lee Hsien Loong ont mené une rencontre individuelle au bureau du premier ministre singapourien. Lors de la réunion bilatérale, le président était accompagné d'un certain nombre de ministres. Dans cette réunion, a signé 5 mémorandums d'accord. En outre, il existe 4 autres protocoles d'entente signés devant les deux chefs du gouvernement. Les mémorandums d'accord sont entre autres dans le domaine de l'éducation, de l'infrastructure, de l'économie numérique et de la gestion des catastrophes. La commémoration de Rising 5 ans est animée par une performance conjointe de la force aérienne d'Indonésie et celle de la République de Singapour au centre de croisière Marina Bay, avec les avions de combat F-16 volant présentant la formation de 5 ans. Avant de retourner à Jakarta, le président Joko Widodo et le premier ministre Lee Hsien Loong ont assisté au forum d'investissement Singapour-Indonésie sous le thème « Opportunités commerciales dans le secteur du tourisme en Indonésie ». Le président et l'entourage sont arrivés à Jakarta jeudi soir. Chers amis, c'était la mise au point. Bonsoir, chers auditeurs. Retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous amener dans un voyage culinaire pour goûter un plat typique de Lombok, le saté de Tanjung. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de la Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, en plus de ces beaux paysages, Lombok dans la province Nusa Tenggara Ouest possède également des plats délicieux qui peuvent secouer notre langue. L'un d'entre eux est le saté Tanjung. À Lombok, en particulier dans l'est de Lombok, ce saté est un plat sacré qui est servi dans certaines occasions, comme lors d'événements religieux, lors de cérémonies traditionnelles ou lors des fêtes de mariage. De même, lors des fêtes religieuses d'Idul Fitre et Idul Adha, chaque famille du sous-district de Tanjung en servira le saté Tanjung à ses invités. Par conséquent, manger ce saté à Lombok a une sensation différente. C'est la raison pour laquelle on a décidé que le saté Tanjung serait la nourriture typique de Lombok oriental. Ce saté avec un goût rare parce que dans le passé, le secret du goût de saté n'était connu que par les autochtones de Tanjung et donc le reste du monde ne pouvait pas le cuisiner. Le saté Tanjung est généralement cuisiné à partir de poisson de cakalang ou de poisson de langouan. Si cakalang est rarement trouvé au marché, le poisson langouan ou le marlin peut aussi être utilisé pour faire le saté Tanjung. Tout d'abord, le poisson doit être nettoyé de ses écailles, de ses arêtes et de ses épines. Après cela, il est coupé en petits morceaux, immergé et aromatisé avec les épices broyées telles que poivre, curcuma, gingembre, galanga, noix de muscade, sel et vinaigre. Lorsque le poisson est prêt, ajoutez le lait de noix de coco épais. Agitez le tout pour que cela devienne une pâte que l'on enfile sur les brochettes. Chaque brochette contient 5 morceaux de pâte. Ensuite, le saté est grillé sur un frappin, un outil qui sert à griller les satés et qui est fabriqué à partir d'argile dont les braises sont faites de coquilles de noix de coco. Pour que le plat soit encore plus parfumé, n'oubliez pas de verser du jus de lime au moment de servir le saté. Au fil du temps, le saté Tanjung est devenu la source alternative de revenus pour la plupart des habitants de Tanjung. Aujourd'hui, pour profiter de saté Tanjung, nous n'avons pas besoin d'attendre que les habitants de Tanjung préparent des cérémonies religieuses. Le saté Tanjung est apprécié quand il est encore chaud et servi avec lontong, soit du riz à la vapeur enveloppé dans des feuilles de bananier ou avec du riz chaud. Le goût savoureux des viandes de poisson et du lait de noix de coco, ainsi que les épices provenant des ingrédients, est très présent. Le mélange d'épices et de poissons grillés donne au corps une sensation de chaleur. Les saveurs salées et épicées dominent le saté Tanjung. Par conséquent, de nombreux touristes apprécient cette préparation. C'est facile d'acheter des satés Tanjung parce que les vendeurs les vendent autour du marché ou au terminal des bus de Tanjung. Le prix d'un brochette est de 500 rupiah ou si vous voulez commander une portion contenant 20 brochettes de saté, vous n'avez qu'à payer 10 000 rupiah. Habituellement, les vendeurs du saté Tanjung commencent à servir à 14h jusqu'à 21h heure locale. Chers auditeurs, les vacances à Lombok seraient incomplètes si vous ne goûtiez pas le saté Tanjung, surtout après un voyage à Gili Trawangan, l'une des plus belles îles dans la province de Nusa Tenggara West, lorsque le corps se sent fatigué. Goûtez alors le saté Tanjung. Nous sommes sûrs que vous serez à nouveau frais et en forme. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel avec le titre Le saté Tanjung. Rendez-vous demain pour d'autres sujets plus intéressants encore. Au revoir! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Il y a 34 ans, précisément, le 9 septembre 1983, pour la première fois, l'avertissement de la Journée nationale du sport a eu lieu. La date est choisie pour commémorer l'histoire de la Semaine nationale du sport, soit PON inaugurale. Historiquement, cela découle du rejet des athlètes indonésiens lorsqu'ils rejoindront le 14e Jeux olympiques d'été à Londres en 1948. L'unité de sport de la République d'Indonésie, soit PORI, en tant qu'organe sportif officiel en Indonésie, à cette époque, n'a pas été reconnue comme membre du Comité international olympique, car l'indépendance de l'Indonésie n'a pas été reconnue par le monde. À cette fin, PORI a décidé de tenir la Semaine nationale du sport pour la première fois à Solo, Java Central, pour prouver que l'Indonésie est en mesure de réaliser des événements sportifs à l'échelle nationale. L'ouverture du premier PON a été inaugurée par le premier président d'Indonésie, Sukarno, alors que la cérémonie de clôture était menée par Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dans la mise en œuvre de la Journée nationale du sport cette fois, la ville Magelang Java Central a été nommée hôte. La sélection de la ville Magelang comme hôte en raison de l'existence du Mont Tidar, qui est considéré comme le centre ou le point du milieu de l'île Java. Selon le plan, d'après le sous-ministre adjoint de la gestion sportive du ministère de la Jeunesse et des Sports, Hamka Hendra Nur, on va construire le monument de terre et d'eau dans la région du Mont Tidar. Les matériaux sous forme de terre et d'eau sont prélevés de 90 villes ou régions proposées par des milliers de participants Goes Pesona Nusantara de différentes régions. La ville de Magelang a choisi l'eau de la douche Drajat qui se trouve à Kampung Tulung, le village Magelang et la terre du Mont Tidar pour être utilisée comme matériau pour faire des monuments. Parce que l'eau de la douche Drajat et la terre du Mont Tidar sont crues d'avoir la propriété d'améliorer la degré d'une personne. Hamka a ajouté, la commémoration de la Journée nationale du sport cette année n'est pas seulement une cérémonie, mais veut également introduire le potentiel du Mont Tidar comme destination touristique et en lieu d'exercice et promouvoir le temple Borobudur étant inclus dans 10 destinations touristiques prioritaires de l'Indonésie. Selon le maire de Magelang, Sigit Widyo Nindito, le monument contient une philosophie selon laquelle la ville Magelang pourrait devenir le symbole de l'union et de l'harmonisation de l'État unitaire de la République d'Indonésie. La Journée nationale du sport sera concentrée au Stade Mohamad Subroto, la ville Magelang. Certaines autres activités se tiendront également au complexe de l'Académie militaire de Magelang, Yogyakarta et région Temanggung. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de l'Indonésie, Imaniar. Voici sa première chanson intitulée « Mon désir ». Bonne écoute.
Segala
Chers auditeurs, c'était la chanson d'une manière intitulée Mon désir. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ce.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Imania, qui a le nom complet Imania Nur Said, née à Jakarta le 15 octobre 1965, est une chanteuse indonésienne. La fille du grand musicien Said Klana est cohérente du courant musical R&B. Avant d'être reconnue en tant que soliste, Imania a rejoint avec ses frères dans une bande de famille, The Big Kids, et elle a chanté ensemble avec sa sœur Lydia Nur Said. Son jeune frère, Iwan Nur Said, a participé au monde de la musique de jazz et d'autres son jeune frère, Inan Nur Said, était célèbre comme le batteur qui a rejoint le groupe musical Demerat avec le courant musical jazz et le groupe musical God Bless, qui a le courant de rock. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante d'une manière intitulée « Désordonné ». Bonne écoute. Ciao. Chers amis l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse pop indonésienne, Imaniar. La musique qui est facile à écouter mais exclusive est un bon emballage pour le vocal typique d'Imaniar et sa sœur Lydia. Le vocal de Lydia qui a la tendance jazz est combiné uniquement avec la nuance R&B. Malheureusement, il y a seulement deux albums qu'elles ont été lancés. Imaniar est également devenue une soliste en lançant plusieurs albums, y compris Mon Désir et Désordonné, qui a vendu près d'un million de copies. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson d'Imaniar intitulée Tempête de l'amour. Bonne écoute et à bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.